On se tourne maintenant vers l'invité de la séquence interview, Barbara Lefebvre, bonjour.
Bonjour, je vais être un petit peu plus bavarde.
Voilà, peut-être, mais peut-être que vous allez aussi éveiller la volonté de Frédéric Lordon de reparler dans ce micro. Auteur de Génération, j'ai le droit, publié chez Albin Michel. Peut-être qu'il faut que vous expliquiez plus explicitement ce que vous entendez par Génération, j'ai le droit. Ça recouvre quoi précisément comme phénomène ?
C'est une formule, hein, en réalité. C'est une formule pour essayer d'identifier ce qu'on peut caractériser aujourd'hui par l'état de nos sociétés modernes d'un extrême égocentrisme de l'individu, c'est-à-dire le triomphe de l'individualisme, mais dans tout ce qu'il peut avoir de plus bas, au sens, je dirais presque péguiste du terme. C'est vrai qu'on est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'individu est véritablement roi. Et la société est au service de l'individu et non plus l'individu au service de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, le destin collectif, le destin de la société m'importe moins que finalement l'achèvement de mon destin personnel, de mes intérêts particuliers. Et évidemment, le bien commun, l'intérêt général, eh bien s'estompe et voire pour certains, même pour certaines générations, dans le contexte. Ma problématique, c'est quand même le contexte éducatif. Et dans le contexte d'une acculturation de masse, là, on a effectivement le triomphe du moi qui vient écraser un collectif qui pourtant reste à construire.
Quel rapport entre triomphe du moi et acculturation ?
Alors, justement, cet ultralibéralisme et ce consumérisme de masse qui nous est servi depuis une trentaine d'années, sous couvert par ailleurs dans l'éducation, dans le monde de l'éducation, de discours progressistes, les sciences de l'éducation bienveillantes, le progrès de l'enfant, une vision un peu rousseauiste comme ça, n'a finalement rien caché d'autre que cette destruction de la culture, en particulier cette destruction de la culture classique. Et le fait, par exemple, et c'est ce sur quoi j'essaie le plus d'insister dans le livre, le fait d'avoir transformé la langue française, par exemple, en langue de communication. Et finalement, on a arraché des générations entières d'une maîtrise de la langue et d'une connaissance de la langue qui leur permettait justement de s'élever vers cette culture classique qui fait de nous des Français.
Exemple de cette transformation ? Vous avez un exemple à donner ? Comment on transforme une langue ?
C'est en particulier l'enseignement du français, la façon dont on a formé les maîtres depuis plus de 30 ans à l'enseignement du français, qui produit les effets que l'on connaît. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir que dès 1987, on commence les premières études d'évaluation au sein même de l'institution scolaire, l'évaluation de l'effet de ces méthodes sur le niveau des élèves, et on ne cesse de voir les difficultés de lecture, les difficultés en particulier de lecture-compréhension, les difficultés d'apprentissage devenir de plus en plus importantes, voire aujourd'hui massives, avec une école extrêmement inégalitaire. Et finalement, jamais on ne remet en question ces méthodes pédagogiques qui ont conduit à ce désastre. Et aujourd'hui même, ceux qui ont produit cette école de l'inégalité au nom justement de l'égalité des chances, parce que c'est là tout le paradoxe de ce grand progressisme éducatif, finalement nous explique que c'est pas le problème des méthodes, c'est le problème d'une sorte de pathologisation des élèves. Donc on voit flamber les dyslexies, les dysgraphies, les dysorthographies, alors qu'en réalité on sait très bien, et tous les experts le montrent, le taux d'élèves dyslexiques n'a pas augmenté, il reste toujours entre 3 et 5% depuis très longtemps, mais on diagnostique des élèves en troubles des apprentissages, en grande difficulté, alors qu'en réalité c'est les méthodes d'enseignement qui posent problème, et cela, aucun ministre jusqu'ici n'a souhaité véritablement les remettre en question, parce que voilà, ils détiennent une certaine
autorité.
Donc
Jean-Michel Blanquer, jusqu'ici, voulait dire vous excluez Jean-Michel Blanquer.
Jean-Michel Blanquer vient de commencer, donc je ne sais pas s'il aura les moyens de sa politique. Je pense qu'il y a une intention, il y a une volonté, mais après, on n'en est qu'au début.
Alors dans votre livre, vous parlez de l'acculturation et vous dites aussi, finalement, ça enlève l'accès à la littérature, à la culture en général. Ça ne donne pas la clé d'entrée dans ces domaines-là. Et qu'est-ce que ça modifie pour la personne, finalement ?
Pour moi, ça modifie tout. Mais je suis professeur d'histoire-géographie, je suis aussi enseignant spécialisé, je m'occupe d'élèves handicapés, mais je pense fondamentalement que la France est une nation littéraire. C'est-à-dire que si on prive les enfants, et en particulier les enfants des milieux populaires, d'accès à la littérature, à la grande littérature, à nos auteurs classiques, c'est une façon de les priver de leur identité. Parce que, comme disait Kafka, quand vous lisez un livre, ce qui compte, c'est qu'il vous mette un grand coup de poing sur le crâne. Sinon, ça ne sert à rien de lire. Eh ben, c'est ça. La littérature, elle est faite pour entrer dans des mondes nouveaux,
mais
des mondes qu'on ne connaît pas.
Pas seulement la littérature française.
Pas seulement la littérature française, mais enfin, quand on est français et qu'on est à l'école, on entre aussi dans son identité française grâce à la littérature française ou francophone, si on veut. Mais enfin, il faut quand même passer par les grands textes. La littérature pour jeunesse, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais il y a un moment donné où il faut se coller à la vraie qualité de notre langue, et je suis navrée, mais de ce point de vue, les grands textes, les grands auteurs, Molière, La Fontaine, Flaubert, Victor Hugo, c'est ça qui porte aussi notre identité, et c'est ça qui fait qu'on se sent véritablement français. D'ailleurs, moi, souvent, j'ai entendu des grands écrivains comme, des très grands écrivains étrangers dire qu'ils étaient entrés dans la langue française et dans leur identité française par la littérature. Donc, je pense que vraiment priver les enfants de la littérature, c'est les priver de leur identité.
Est-ce que c'est un combat idéologique que vous menez ?
Ah non, pas du tout. Alors vraiment, sincèrement, alors évidemment, on veut toujours réduire ces débats éducatifs à des camps, hein, les camps des réacs, les camps des nostalgiques. Je n'ai aucune nostalgie de l'école d'avant. La seule nostalgie que je pourrais avoir, c'est qu'effectivement, pour voir dans ma famille le milieu populaire, que l'école d'avant, effectivement, leur avait au moins permis d'apprendre à lire, écrire, compter, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça peut être éventuellement la seule nostalgie que je peux avoir. Mais non, je suis pas dans une nostalgie de l'école d'avant. Il n'y a pas d'idéologie. Au contraire, je pense que l'école, elle n'est pas là pour gouverner les esprits. L'école n'est pas là pour être le vecteur d'une idéologie, elle est là véritablement pour être le vecteur d'une culture commune et de ce qu'on appelait avant les humanités. Alors, si parler des humanités, dire qu'il faut absolument que dans les quartiers populaires, l'enseignement du latin soit important, massif, que la grande musique, la musique classique puisse revenir, par exemple, moi je trouve dommage qu'on n'ait pas davantage de classes musicales dans les écoles des quartiers populaires. C'est extrêmement important, la grande musique. Moi, en ZEP, j'ai conduit des projets avec une collègue de musique. On les a emmenés à l'opéra écouter Wagner. Ben, c'était absolument passionnant. Donc, je pense que ça n'est pas nostalgique de vouloir, au contraire, transmettre la culture aux élèves.
Et l'histoire, puisque vous êtes professeur d'histoire ?
L'histoire, c'est, comme la littérature d'ailleurs, un grand terrain de combat idéologique, et c'est bien dommage qu'on en soit là, de captation d'un certain nombre de sujets autour notamment le roman national, etc. Moi, je n'ai pas du tout une vision téléologique de l'histoire. L'histoire n'est pas une métaphysique, c'est un ensemble de faits qu'on doit transmettre aux élèves en essayant d'être le moins dogmatique possible. Et je crains, hélas, qu'effectivement...
Il y a toujours un récit malgré tout qui s'impose.
L'histoire est un récit, je veux dire... Écrire depuis Thucydide, depuis même Hérodote, l'histoire est un récit. Les gens qui vous expliquent que le roman national, le récit national, c'est horrible, c'est simplement des gens qui ne sont même pas des historiens. L'historien fait le récit du passé à travers son regard qui est celui du temps présent. Flaubert disait l'histoire romaine, il faut la réécrire tous les 20 ans. Donc vous voyez, le roman national, c'est pas quelque chose qui me fait forcément rêver.
Vous citez aussi Rabelais, le temps est père de vérité. Est-ce que c'est pas la question de fond, notre rapport au temps qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le présentisme, qui rend caduque finalement le passé, ou du moins inutile, et qui n'offre pas de contours pour l'avenir?
Ça, c'est sûr que le culte du présentisme et le culte de l'immédiateté, c'est vraiment ce qui aujourd'hui conduit justement à cette société où l'individu est complètement atomisé et où finalement le sens du collectif se perd et où l'individu se perd lui-même. Donc oui, cette immédiateté, on le voit bien nous au niveau de l'éducation nationale, l'effet que les réseaux sociaux ont aussi sur la sociabilité des élèves et sur cet individualisme, ça pose un certain nombre de questions.
Vous regrettez la disparition donc du commun, on l'aura compris. Est-ce que finalement vous ne vous sentez pas proche de ceux qui à gauche aussi défendent cette idée, cette idée de commun? Je sais pas, on peut parler d'Ardaud, Laval par exemple, qui ont fait un livre là-dessus.
Oui, mais moi je suis pour qu'il y ait un débat sur justement quel commun bâtir. Après, si on décide de bâtir le commun sur au contraire justement la reconnaissance d'individualité particulière, de particularisme identitaire, là je ne vais pas forcément être d'accord. C'est-à-dire que si c'est pour enfermer chacun dans des identités formatées, notamment des certains déterminismes ethno-racial ou ethno-religieux, là je ne vais pas être d'accord pour qu'on forme le commun sur les particularismes. Je pense que justement l'identité, notamment l'identité républicaine, et au premier rang desquels l'outil majeur qui est celui de la laïcité, c'est ce qui permet justement d'essayer de se créer une identité citoyenne commune. C'est en fait une forme d'individualisme civique. Et ça existe. Et il faut essayer de le faire vivre, mais en essayant d'être le moins possible dans les particularismes qui nous guettent.
Génération, j'ai le droit, donc entre guillemets, Barbara Lefebvre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est publié chez Albin Michel.